Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, la dernière édition normale de l'année. Nous commencerons la semaine prochaine la série des émissions thématiques et nous essaierons donc aujourd'hui, comme les dimanches précédents, d'éclairer quelques éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Jean-Louis Bourlange, essayiste, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la situation créée par le Brexit. Le 23 juin dernier, les Britanniques ont voté à 51,9% en faveur du Brexit. Un premier Conseil européen a eu lieu mardi, au cours duquel David Cameron a fait ses adieux à ses homologues européens, tout en plaidant pour le maintien, je cite, d'une relation la plus étroite possible entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le lendemain, les chefs d'État et de gouvernements européens se sont de nouveau réunis à Bruxelles, cette fois sans le Premier ministre britannique, et le président du Conseil européen, Donald Tusk, a réaffirmé la détermination des 27 à garder leur unité. Les 27 se sont mis d'accord pour adopter une position ferme face au Royaume-Uni, à qui ils demandent d'engager la procédure de divorce. Angela Merkel a averti que la Grande-Bretagne qu'elle ne pourrait pas négocier un accès à la carte, au marché unique, et qu'elle ne pourrait pas espérer de privilèges de la part de l'Union sans avoir d'obligation. Les extrêmes droites européennes n'ont pas tardé à réclamer des référendums dans leur pays, à l'image notamment de Marine Le Pen en France, Matteo Salvini en Italie et Geert Wilders aux Pays-Bas. En début de semaine, François Hollande, Matteo Renzi et Angela Merkel ont annoncé vouloir proposer, je cite, une nouvelle impulsion du projet européen, notamment dans les domaines de la défense, la croissance, l'emploi et la compétitivité. Au lendemain de la défaite du Remain, David Cameron, démissionnaire, a annoncé qu'il laisserait à son successeur la responsabilité de notifier à Bruxelles le recours à l'article 50 du traité de Lisbonne, article qui porte sur la clause de retrait de l'Union. Ce successeur sera désigné le 9 septembre prochain. L'ancien maire de Londres et leader de la campagne pro-Brexit, Boris Johnson, a annoncé jeudi qu'il n'était finalement pas candidat au poste de Premier ministre. Le Royaume-Uni doit par ailleurs affronter des dissensions internes. L'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour rester dans l'Union européenne, respectivement à 62 et à 55,8%. Et la première ministre écossaise a déjà annoncé son intention de tenir un nouveau référendum sur l'indépendance de son pays. Selon les Échos, dans un document non public, le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, s'inquiéterait d'une possible récession britannique et de ses conséquences, ainsi que de la vulnérabilité des banques, surtout si certains pays hors zone euro adopter une politique de dévaluation compétitive. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, on est à un peu plus d'une semaine de la décision prise par le peuple britannique, les peuples du Royaume-Uni, pourrait-on dire plus exactement. Et je crois que les réactions, ce qui se passe au Royaume-Uni et ce qui se passe en Europe continentale, et notamment en France, montre une chose qui me paraît quelque chose auquel, à laquelle je suis sensible depuis fort longtemps, c'est que l'Europe est le haut domaine, le domaine privilégié du crétinisme universel. C'est-à-dire que, véritablement, c'est un espèce de thème réceptacle, de thème valise, dans laquelle chacun met un ensemble de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et on a une très grande, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le développement de la construction européenne, on a une extrême difficulté à avoir un débat qui soit centré sur des choses réelles. Par exemple, là, il y avait une incertitude qui était tout à fait évidente, c'est qu'on ne savait pas qui allait gagner. On ne savait pas. Le sentiment était que le Brexit était très en avance avant l'assassinat de la parlementaire travailliste, l'assassinat tragique de cette jeune parlementaire. Après, on voyait bien qu'il y avait un effet de rééquilibrage, mais personne ne savait jusqu'où ce rééquilibrage allait. Cette incertitude-là, elle était fondamentale, et je crois qu'il fallait être téméraire pour dire le Brexit allait gagner ou le Remain allait gagner. Mais à partir du moment où le Brexit gagnait, on savait que ça se produirait exactement comme ça. On savait qu'il y aurait des difficultés sur les marchés, d'autant plus fortes que les marchés avaient plutôt acheté la cause du Remain du Riemen, avant l'événement. Donc la secousse serait d'autant plus forte. Et on savait que ce serait passager. On savait que les banques centrales avaient prévu les choses, qu'il y aurait des correctifs très forts qui se feraient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'en avais discuté avec de hauts responsables financiers deux jours avant, aux responsables des autorités monétaires, et qui avaient dit ça sera une secousse, mais ce sera très contrôlé. On savait d'autre part qu'il n'y avait, en termes de scénario, rien à gagner pour le Royaume-Uni. Que ce ne serait pas une catastrophe, que ce serait mauvais sur à peu près tous les plans, car il n'y avait rien à gagner. Mauvais, pas catastrophique. Et c'est exactement ce qui s'est confirmé. Ça conduit à une menace sur la cohésion du Royaume-Uni, ça conduit à une incertitude sur le fonctionnement de l'économie britannique, ça conduit à tout un ensemble de... à une dislocation du système politique, tout un ensemble de choses qui sont extrêmement négatives. Et là, on voit quand même les limites du référendum. Alors, moi, le référendum, je commence à avoir par-dessus la tête du référendum comme instrument privilégié de la démocratie. Le référendum est un instrument privilégié de la démocratie, sans aucun doute. Saluons la mémoire du général de Gaulle, à la condition qu'il y ait trois choses qui se fassent. Un, que le territoire soit pertinent, ce qui était le cas, en l'occurrence, ce qui n'était pas le cas en 2005, où les Français tout seuls mettaient en cause l'ensemble. Là, les Britanniques définissaient leur politique, leur position par rapport au reste de l'Europe. Ça collait. En revanche, ça ne peut être absolument pas un instrument de décision politique au sein de l'Union européenne, à moins de considérer que le référendum, s'il doit être accepté partout, donc c'est une clause d'unanimité particulièrement impossible à réunir, ou qu'on doit passer outre à l'opposition dans tel ou tel pays si la majorité dans l'ensemble de l'Union européenne est dans l'autre sens, ce qui est inacceptable. Donc c'est un mauvais instrument. Deuxièmement, il faut que ce soit clair. Il faut que le choix soit clair, soit simple, ce qui n'était pas le cas en 2005, ce qui était le cas dans différents référendums. Le référendum de 58, on savait que ça renforçait l'exécutif. Le référendum de 62, on savait que ça donnait le pouvoir ça faisait élire le président par le suffrage universel. Le référendum de Maastricht, on savait qu'il y avait une monnaie unique au bout. Là, en 2005, ça ne l'était pas. Et là, c'était pas clair du tout, contrairement aux apparences. Parce que le dernier élément pour qu'un référendum puisse fonctionner, c'est qu'il y ait une alternative. Un référendum ne peut pas fonctionner si c'est un vote de mauvaise humeur. Ça n'a aucun sens. Si vous dites « j'aime pas », ça n'a pas de sens. J'aime l'Union européenne, non, personne n'aime l'Union européenne, comment l'aimerait-on vu la façon extrêmement difficile dans laquelle elle se meut, mais le « j'aime pas » ne signifie rien, puisqu'on ne sait pas ce qu'on remplace, ce qu'on va mettre à la place. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2005, et c'est là ce qui s'est passé de façon très nette. Donc on était... On savait également que Boris Johnson, tout le monde l'avait dit, tous les observateurs, que Boris Johnson ne serait pas l'alternative, et la plupart des observateurs pensaient que celle qui était le mieux placée pour être l'alternative serait effectivement Theresa May, parce qu'on savait qu'il fallait reconstruire l'unité du Parti conservateur, qu'il fallait donc quelqu'un qui soit au centre du Parti conservateur, et en même temps très peu engagé dans la campagne pour pouvoir recoller les morceaux. Bon. Tout ça, on le savait. Alors, et on n'est donc pas du tout surpris. Grande surprise, Boris Johnson n'est pas candidat, mais il était exclu qu'il soit candidat. Alors ensuite, il y a beaucoup de choses à dire, mais sur les réactions françaises, notamment, disons les réactions françaises rapidement, là, les bras nous en tombent. On a Nicolas Sarkozy qui dit qu'il faut faire un nouveau traité en 5 points. Il n'ose même pas le présenter au PPE. Il le dit vendredi, en France, 5 points, etc., tac, tactique, bon. Et quand il va au PPE, il n'ose même pas en parler à ses collègues. Alors qu'est-ce que ça signifie? Que d'avoir un projet européen qu'on n'a même pas la possibilité de présenter à ses collègues avec lesquels on doit le faire. L'analyse, en général, consiste à dire, alors, moi je suis en désaccord avec Hubert Védrine qui dit c'est l'overdose, c'est trop de réglementation. C'est pas vrai cette histoire de réglementation. Bien sûr qu'il y a trop de réglementation. Il y a trop de réglementation dans l'État français aussi, depuis Courteline, on le sait. Mais ça n'est pas le problème. C'est d'autant moins le problème que c'est nous qui l'avons voulu, nous Français. Cette réglementation, on a dit au moment de l'acte unique européen, pas de libéralisation sans harmonisation. L'harmonisation, ça veut dire que tout ce qu'on libéralise, on fait un règlement définitif. définissant un certain nombre de normes. Donc les centaines de directives, c'est sorti du cerveau français. Alors je sais bien que le paradoxe de Bossuet, selon lequel les gens maudissent, Dieu se moque Dieu des hommes qui maudissent les conséquences de ce dont ils chérissent les causes, est à l'homme. Enfin, c'est bon. Troisièmement, on dit l'Europe est en déni de démocratie. C'est une blague. C'est une blague. Personne ne définit aucun modèle démocratique. Moi, je suis désolé. La Commission est responsable devant investie par le Parlement, censurée par le Parlement. Les commissaires sont nommés après audition. La codécision législative se fait avec un accord entre deux autorités issues du suffrage universel, les gouvernements et le Parlement. Alors, on peut dire que c'est pas le gouvernement représentatif. On peut dire surtout qu'il n'y a pas, et c'est ça le vrai problème, qu'il n'y a pas de compétences, qu'il n'y a pas, que toutes les compétences politiques sont refusées à l'Europe. Alors, ça conduirait à dire plus d'Europe. Ben non, tout le monde dit oh, trop d'Europe, il faut arrêter tout ça. Donc on a vraiment, et dernière cause, dernière analyse, c'est la faute de l'élargissement. L'élargissement pose des tas de problèmes, mais la cause centrale de tout ça, c'est l'affaiblissement du couple franco-allemand et le fait que sur l'immigration, la politique économique, la politique militaire et de sécurité et de politique étrangère, nous ne sommes pas au diapason, nous ne sommes pas en concordance avec les Allemands et que nous n'avons pas fait ce travail. Donc il faudrait vraiment prendre les choses sur d'autres bases. Alors dernière chose quand même sur l'Angleterre.
Nous y reviendrons, nous allons tourner.
C'est interminable ce problème.
Nicole Niesoto.
Oui, moi, d'abord un mot sur la Grande-Bretagne et ensuite sur les conséquences pour l'Europe. Et je ne partage pas tout à fait ce que dit Jean-Louis. Je crois que la bêtise est également partagée. Elle n'est pas uniquement du côté de ceux qui ont voté pour le Brexit.
Exactement. J'ai dit que c'était partagé. C'est pour éviter un désaccord entre nous.
Mais d'abord sur la Grande-Bretagne. Moi, je suis partagée entre la compassion, quand même, pour ces pauvres Anglais qui vont se retrouver dans une situation aberrante, et la colère. Parce qu'ils nous mettent dans la mouise. Ça fait d'ailleurs depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne qu'ils nous mettent dans la mouise et ils vont continuer à le faire puisqu'on ne sait pas s'ils sont dedans, dehors, pendant combien de temps, etc. Donc je suis partagée entre ces deux sentiments et j'ai plutôt envie de leur dire comme à Georges Dandin, après tout bien fait pour vous, je vous rappelle la phrase de Georges Dandin, vous l'avez voulu Georges Dandin, cela vous fait fort bien et vous voilà ajusté comme il faut, vous avez justement ce que vous méritez. Et ce que les Britanniques vont avoir maintenant, c'est une situation du pire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun scénario dans lequel les Britanniques, me semble-t-il, gagnent à cette histoire. D'une part, sur le plan proprement de leur relation avec l'Union européenne, ils sont piégés de tous côtés. Alors je sais que les experts adorent se demander si ça va être la voie de l'espace économique européen, ou la voie suisse, ou la voie norvégienne, ou la voie chinoise, etc. Mais dans tous les cas, s'ils veulent avoir l'accès au marché unique, ils auront l'accès au marché unique, mais ils n'auront au plus aucun droit, aucune décision sur l'évolution de ce marché. Donc ils vont perdre de toute façon le contrôle sur l'Europe, qui est la raison précise pour laquelle ils ont voulu partir. Et donc là, première leçon que l'on peut tirer, c'est que ce Brexit, c'est vraiment une politique du leurre. C'est-à-dire, au nom du retour à la souveraineté, ils vont connaître la plongée dans la dépendance à l'égard des autres et donc dans l'impuissance à l'égard de l'évolution de la construction européenne. Et deuxièmement, ce retour à l'indépendance nationale, c'est d'abord la plongée dans la désagrégation nationale, puisqu'on sait que l'Écosse et l'Irlande du Nord ont manifesté leur intention de trouver une solution pour rester dans l'Union. Donc vis-à-vis des Anglais, je crois qu'il faut leur en vouloir. Et de toute façon, il n'y a rien à envier dans la situation britannique. Je dis ceci pour ceux qui se laisseraient tenter par l'apologie de le retour à l'indépendance. Maintenant, sur l'Europe, là, vraiment, moi, je suis partagé pour le coup entre la stupeur et le tremblement. Stupeur parce qu'ils ont osé, et le tremblement parce que le pire est peut-être devant nous. Et quand je dis le pire, c'est pas forcément le pire en Europe, mais c'est aussi le pire outre-Atlantique. Maintenant, je ne vois pas pourquoi M. Trump ne serait pas élu, puisque la mode est à la destruction de la politique telle qu'elle existe. Mais du côté de l'Europe, ils ont plongé l'Union européenne dans un cauchemar juridique et dans un cauchemar politique. Le cauchemar juridique parce que Encore une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont demander de commencer à négocier le retrait. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et pendant toute la période de cette incertitude, leurs 1400 fonctionnaires, leurs 73 députés gardent tous les pouvoirs. Autrement dit, ils vont être out sur le plan politique, mais in sur le plan juridique. Ils pourront bloquer autant qu'ils veulent, ils peuvent participer à tout. Et on peut avoir cette situation complètement surréaliste qu'au deuxième semestre 2017, la Grande-Bretagne assure la présidence de l'Union européenne, puisqu'en droit, ils ne seront pas sortis en 2017. Donc on est dans une situation totalement surréaliste sur le plan juridique. Et sur le plan politique, on a un vrai cauchemar également, puisque les Français et les Allemands, pour ne prendre que, là je rejoins ce que disait Jean-Louis, sont parfaitement divisés. On a beau afficher un accord de façade avec les Italiens sur la nécessité d'une relance, etc. Il y a de vraies divergences entre la France et l'Allemagne sur la façon de sortir de cette crise. Et moi je me demande si on n'est pas, s'il ne faudrait pas réfléchir à la possibilité d'une crise, enfin de mettre à plat les choses avec les Allemands qui sont systématiquement sur le plan, encore une fois, de l'austérité, de la rigueur, du contrôle économique, et les Français, je pense avec les Italiens et les Espagnols qui viennent de voter également, auraient plus intérêt à des politiques de relance, d'investissement, de justice sociale, etc. Tant qu'on n'a pas ce débat en franco-allemand, la sérénité que l'on peut afficher en public n'aura aucune conséquence sur la gestion de la crise.
Thierry Pech.
Écoutez, moi je suis partagé face à ce Brexit entre le respect de l'expression populaire. Les Britanniques ont voté, ils ont voté pour sortir, bien. Alors, les référendums ont leurs limites, Jean-Louis l'a dit, mais la voix du peuple s'est faite entendre, et voilà, c'est comme ça. Et puis partagé entre ce respect, et puis, effectivement, une forme de colère contre cette génération de politiciens cyniques et abjects, capables de tout mélanger, de mentir, de tromper, d'abuser, de tenir des paradoxes et des contradictions absolument intenables, comme je donne cet exemple, parce que quand même, les pro-européens n'ont pas su assez le montrer, mais les noces étranges du libéralisme, d'ouverture maximale, faisant le procès de la réglementation européenne avec un nationalisme de fermeture des frontières étroitement identitaire et replié sur soi, c'est tout de même un cocktail absolument intenable. Bon, eh bien, effectivement, le Brexit, c'est ces deux choses en même temps. C'est l'alliance des tricheurs et des perdants. Les tricheurs, c'est cette génération de politiciens irresponsables qui pensent que la politique est un sport de club réservé à des gentlemen à qui tous les coups sont permis. Et puis les perdants, ce sont les gens qui habitent cette Angleterre des périphéries. C'est pas le Grand Londres, effectivement. C'est une Angleterre vieillissante qui pense qu'elle a plus à perdre qu'à gagner au monde comme il va, alors même qu'elle a énormément contribué à ce que ce monde soit ce qu'il est. Parce que pendant les années 90 et 2000, le Royaume-Uni a été un des principaux porteurs et champions de la libéralisation. Ces noces tragiques des tricheurs et des perdants sont possibles ailleurs en Europe aujourd'hui. Cette alliance de la carpe et du lapin, d'une certaine façon, des gens qui sont dans la difficulté et de ceux qui exploitent des démagogues, pour tout dire, c'est possible dans la plupart des démocraties européennes. Et si, au moins, le pataquès britannique actuel, le spectacle désolant qu'ils offrent, pouvait servir de leçon aux opinions du continent, ça aurait été utile à quelque chose. Mais pour ça, il faut que la politique ait des conséquences. Il faut qu'elle ait des conséquences. Il faut que lorsqu'on vote quelque chose, ça ait des conséquences dans la vie économique, politique, matérielle, morale du pays. Et moi, je pense qu'il faut que le Royaume-Uni, aujourd'hui, paye cette situation, malheureusement. Alors, cette situation, j'ai toujours dit à ce micro un Brexit serait plus coûteux pour le Royaume-Uni que pour les autres Européens. Et je continue de le penser. Du point de vue économique, d'ailleurs, le consensus des économistes est assez clair là-dessus. Le Brexit, c'est un point de croissance perdu. C'est des conditions de financement public qui vont se durcir. Ce pays est on le dit jamais, mais c'est, est en déficit public et commercial considérable. Bon, c'est une dévaluation, une dépréciation pour le moment et probablement une dévaluation de la livre sterling qui va d'abord frapper les plus modestes. Parce que, vous savez, on dit toujours les dévaluations, ça, et c'est vrai, ça renchérit les importations, mais ça baisse le prix des exportations, donc ça les rend plus compétitives. Bien. Mais qu'est-ce que la Grande-Bretagne exporte ? Elle exporte des services à haute valeur ajoutée. Donc la dépréciation de la livre ne va pas avoir un effet extrêmement dynamique sur cette offre. En revanche, elle va avoir un effet très pénalisant sur les importations, et par exemple les importations dont les gens modestes ont besoin, les importations alimentaires. La dépendance alimentaire du Royaume-Uni est réelle. Et bien, dès aujourd'hui, les produits alimentaires voient leur prix grimper dans les magasins britanniques. Et on peut répéter ici ce que disait un expert britannique. Les Britanniques ont voté pour l'augmentation des prix de l'alimentation. Voilà. Alors, un dernier mot. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ce qui se passe toujours, c'est-à-dire que la diplomatie britannique va rester ce qu'elle est depuis des siècles, orientée par, aimantée par le désir de diviser le continent. Et donc, malgré ce vote Brexit, ils vont jouer la carte du pourrissement en disant, bah écoutez, ce qu'on n'a pas obtenu par la négociation avec vous, comme on ne veut pas vraiment en réalité du malheur que nous profile le Brexit, on va l'obtenir dans la négociation de l'accord, voire même avant l'accord. Parce que on peut bloquer le jeu. Si on refuse d'activer l'article 50, la clause de retrait, on peut bloquer tous les votes de l'Union européenne. C'est très compliqué, vous savez, d'avoir des majorités qualifiées sur le budget sans les Anglais. Donc on peut bloquer le jeu et obtenir de cette façon, de vous, ce qu'on n'a pas obtenu autrement. C'est-à-dire quoi ? Trois choses, très simplement, je vais très vite, Philippe. La première, c'est on veut le libre-échange sans la réglementation. On veut l'immigration, mais juste la crème, les très qualifiés, on ne veut pas les autres. Et on veut bien contribuer un peu, comme la Norvège ou la Suisse, mais encore moins qu'avant. Bon, et là-dessus, je vais vous dire, c'est très simple. L'Europe ne doit pas céder. Parce que...
Oui, il faut garder les passeports euros.
Les passeports euros, c'est un peu technique, on peut y revenir plus tard. Mais sur ces trois points, il ne faut pas céder, c'est l'identité de l'Union européenne. Voilà. Eh bien, si... Voilà, enfin, je m'arrête, je vois que Philippe me fait des signes.
Désespéré. François Bujon de l'Étang.
Alors, on peut s'efforcer, comme le fait Jean-Louis, de relativiser le petit tremblement de terre du Brexit de la semaine dernière. Non, vous le faites avec raison, on peut le relativiser. Mais je pense que c'est un tremblement de terre qui a plus de magnitude, si j'ose dire, sur les selles de Richter européennes que les précédents. Les précédents, il y en a eu beaucoup, et on pourrait dire, en effet, une crise de plus, une crise européenne de plus. On a déjà eu la difficile ratification du traité de Maastricht, on a eu le rejet par les Français et les Hollandais de la Constitution en 2005, on a eu les référendums d'Anne, on a eu tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, c'est un problème de plus. Mais en réalité, c'est un problème nouveau. Il a une dimension supplémentaire, celui-ci, parce qu'il touche à un tabou. Le tabou, c'est l'irréversibilité. Et il est le premier grand référendum, la première grande décision qui porte atteinte au dogme fondamental que la construction européenne est irréversible, comme la zone euro est irréversible. C'est ce qu'on a défendu dans le cas de la Grèce et du Brexit. Donc au fond, la leçon de tout ça, numéro un, c'est que ce qui s'est construit pendant 50 ou 60 ans en Europe peut être déconstruit. Au fond, c'est cette leçon-là que nous apportent les Britanniques qui, du coup, risquent, par ce méfait, si j'ose dire, de donner des idées à bien d'autres. Alors, d'autant plus que ceci se passe sur la toile de fond que nous avons souvent dénoncé à ce micro, de l'agitation populiste en Europe et dans tout l'Occident. Ceci, c'est sur la toile de fond générale du Front National en France, de M. Orban en Hongrie ou de M. Kaczynski en Pologne ou de M. Trump aux États-Unis. D'ailleurs, c'est quand même la toile de fond sur laquelle vient de se dérouler ce référendum extraordinaire qui met évidemment en évidence la rupture des opinions publiques européennes avec l'idée européenne même, ou en tout cas avec les institutions européennes telles qu'elles existent et telles qu'elles fonctionnent. Alors, ceci étant dit, l'état des lieux, une semaine ou 10 jours après le référendum, n'est pas brillant, il faut bien le reconnaître. D'abord, en Grande-Bretagne, s'il y a des adeptes de la théorie du chaos, ils doivent vivre des jours dorés, parce qu'on a rarement vu mieux. Crise au parti conservateur, crise au parti travailliste, dans lequel, bien entendu, la base va s'insurger contre les leaders pour essayer de sauver la peau à Monsieur Corbyn, qui est critiqué par personne. Désarroi d'une grande partie de l'opinion britannique. Alors ceux qui ont voté pour le Brexit et qui vous disent, dans des tas de déclarations qu'on entend sur les radios, le micro-trottoir. Ah, mais j'étais mal informé, je ne voulais pas cela. Alors, Nicole, je reprends un de vos mots. Je n'éprouve aucune compassion pour les électeurs britanniques. Ils se sont exprimés avec une majorité très large, puisque 52 contre 48 dans nos démocraties modernes, c'est une majorité très très large. Et ce genre de pleurnicherie est à peu près insupportable, je pense, compte tenu de l'état de désordre dans lequel ils viennent de plonger l'Europe tout entière. Alors, que va-t-il se passer? On peut bien entendu ergoter ou faire toutes sortes de... Ça fait penser irrésistiblement à cette vieille blague éculée sur l'insularité britannique, qui est le bulletin météo de la BBC, disant « brouillard épais sur la Manche, aujourd'hui le continent est isolé ». Il y a un peu de ça, je reconnais, dans la situation actuelle. C'est paradoxal, mais les Anglais tiennent en effet la clé des mois qui viennent, du court et du moyen terme. Ils vont répugner à appuyer sur la gâchette de l'article 50 du traité de Lisbonne. Monsieur Cameron a trouvé une nouvelle formule qui est la démission à effet différé. Ça, c'est une innovation. Je démissionne, mais en octobre seulement, n'est-ce pas? Ce qui laissera le temps d'avoir un nouveau chef du Parti conservateur, d'avoir peut-être de nouvelles élections, de laisser, bien entendu, à mon prédécesseur le soin de faire ce dont je suis responsable. Mon successeur, pardon. C'est de faire ce dont je suis responsable, mais ce que je ne veux pas faire. Enfin, la mort politique de Monsieur Cameron se fait dans un crépuscule des dieux tout à fait extraordinaire. C'est l'écroulement de tout le Valhalla britannique, en effet, avec...
Le général Franco, ça prend du temps.
Oui, enfin, c'est ça. Mais c'est la mort à effet différé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose... Donc, la procrastination va être le maître mot de la diplomatie britannique. Et ça, au fond, c'était un peu à prévoir. Moi, je disais volontiers avant le référendum que nous serions perdants dans tous les cas de figure. Ou bien les Britanniques sortent et posent un problème majeur parce que, comme le dit très justement Thierry, ils vont s'efforcer d'obtenir ceci, cela, de rester, bien entendu, dans le grand marché unique, mais de ne pas donner de contrepartie. C'était à prévoir. Ou bien ils restent et dans ce cas-là, ils disent « Oh là là, vous avez vu comme le coup est passé si près, il faut maintenant que vous nous fassiez des concessions pour que ça ne se reproduise pas. » Il était sûr que nous allions entrer dans un imbroglio de ce type. Et alors là, je rejoins tout à fait Thierry dans son appel à l'intransigeance, parce que ça va être tout à fait insupportable. Nous pouvons compter sur le talent de la diplomatie britannique, bien connue et maintes fois prouvée, pour déployer des scénarios, des hypothèses, des demandes extraordinairement articulées qui aboutiront à paralyser le fonctionnement de l'Union européenne. On le voit venir, on est déjà dedans, sauf qu'il va falloir attendre. Il va falloir attendre la course à la chefferie, comme diraient les Québécois, ou en français on dit le leadership du Parti conservateur. Il va falloir attendre les élections générales qui vont avoir lieu peut-être au mois de novembre. Il va falloir attendre Dieu sait quoi. Mais nous allons avoir ce scénario, il n'y a absolument aucun doute. Et il va mettre à rude épreuve la cohésion, bien entendu, des continentaux. On l'a déjà vu au Conseil européen des 27 et 28 juin. Madame Merkel prône la souplesse, pas d'initiative précipitée. Bon. Monsieur Hollande revient à ses idées du début du quinquennat en disant c'est l'occasion d'essayer de changer l'orientation européenne, de revenir à une Europe de la relance et de chercher à promouvoir avec Renzi et d'autres, maintenant Rajoy qui vient d'avoir la majorité, pas absolue bien sûr, mais la majorité au Cortés, une espèce d'union latine qui serait le contrepoids à Madame Merkel puisqu'il n'y a plus de contrepoids britannique. Mais nous avançons quand même dans une nébulosité très très grande. Et je pense que les mois qui viennent vont être extrêmement difficiles pour l'Europe. Elles vont l'être aussi pour la Grande-Bretagne, parce que on ne peut pas ne pas le dire, mais il est clair que les marchés vont secouer, que la City va frémir, qu'un certain nombre d'institutions financières vont vouloir se relocaliser sur le continent et que la Grande-Bretagne elle-même va être très très secouée.
Jean-Louis, précisez-nous votre pensée sur la Grande-Bretagne que je vous ai enlevée de la bouche.
C'est imprécisable, parce qu'elle est trop vague pour être précisée. Je ne suis pas du tout... Je fais une critique assez égale, pas égale, mais enfin, je distribue ma critique de façon non discriminée entre les partisans et les adversaires. Je crois que les partisans de l'Union européenne ont révélé quand même, comme toujours, l'extrême naïveté de leur position, qui est une position que je qualifierais, pour employer l'expression de Raymond Aron à propos de Marx, d'optimisme catastrophique. C'est-à-dire l'idée, ça va être une chute avec un crépuscule des dieux, une chute sans précédent. On va vers la catastrophe avec le Brexit, et donc aussitôt les peuples continentaux qui ont été retenus d'aller plus loin dans la voie de l'union sans cesse plus étroite vont se redresser. Ça, c'est faux. Je ne crois pas. Ce que je voulais dire, je crois que c'est effectivement un jeu à somme totalement négatif pour tout le monde, cette affaire-là, que les Britanniques qui ont voté le Brexit n'ont rien à gagner.
Personne n'a rien à gagner, mais
ceux qui ont voté, notamment, c'est quand même à eux qu'il faut s'adresser d'abord, parce que c'est eux qui l'ont fait, c'est pas nous, on a regardé. Ceux qui l'ont fait n'ont absolument rien à gagner. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont rien à gagner que c'est forcément complètement catastrophique. Ça se joue effectivement, comme le dit Thierry, un point de moins ici, puis on sait jamais, la statistique, ça, on fait dire ce qu'on veut aux statistiques, donc on ne sait jamais exactement ce qui se produira. Et en revanche, le ressort, j'ai écouté l'autre jour notre ami Barbier de l'Express qui disait, place tout fédéral, on va enfin éliminer tous les faux-semblants, les équivoques, comme après le FN, on va tout changer, on va tout faire. On va rien changer du tout, puisque en réalité, le problème, comme vous l'avez dit, comme nous le pensons tous, je crois, le problème est d'abord un problème au sein du couple franco-allemand. Nous n'avons pas la même perception de l'économie, nous n'avons pas la même perception de des migrations, nous n'avons pas la même perception des responsabilités en politique étrangère et militaire. Je ne dis pas que ce soit incompatible. Je ne dis pas qu'avec du travail, on n'arrive pas à définir. Et c'est ça le boulot. C'est pour ça que on doit faire l'éloge de la lenteur, comme dirait Kundera, et faire le contraire de ce qu'a dit Sarkozy en 24 heures, faire un traité, tout ça n'a pas de sens. Il faut vraiment travailler à l'unité. Mais donc l'optimisme catastrophique est quand même assez pris en défaut. Mais du côté du Brexit et du côté des europhobes comme Marine Le Pen, etc., en France ou ailleurs, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Pour deux raisons. D'abord pour le référendum, parce qu'on voit bien qu'un référendum dans lequel on ne définit pas l'alternative, c'est créateur de beaucoup d'incertitudes. On voit Johnson, le vainqueur, qui dit « Oh non, pas pour moi !» Et le gars du Sun me fait penser à la plaisanterie que vous rappeliez un jour, Philippe, sur le journaliste, le gars qui disait à un responsable britannique « Je suis journaliste au Sun », et le responsable lui répondait « Non, non, il faut choisir, journaliste ou au Sun ». Bon, mais...
L'un ou l'autre, mais pas les deux.
Oui, pas les deux, oui. Et là, on voyait le type qui a dit, Mackenzie, là, « Bon, écoutez, oui, bah, j'ai peut-être eu tort. » Alors, ça, c'est quand même énorme. Donc, ça prouve qu'ils sentent bien. Et puis, la deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est le lien assez paradoxal pour des souverainistes, quand on voit réveil de la nation, effondrement de l'Europe, c'est de la blague. On voit bien que la cohésion du Royaume-Uni et la cohésion de l'Union européenne étaient indexées l'une sur l'autre. Et que vous atteignez la cohésion européenne, vous atteignez, je dis pas que ce sera une crise majeure ou définitive de l'Union européenne, une crise majeure et définitive du Royaume-Uni, mais on voit bien que que le Royaume-Uni est traversé de forces centrifuges extrêmement importantes en Écosse et en Irlande du Nord. Donc et qui sont quand même très menacés et que le système britannique est menacé. Sur l'avenir politique. Certains disent, il n'y aura pas de Brexit, ils vont revenir là-dessus. Je crois pas. Je crois que c'est pas possible parce le peuple a parlé et le peuple peut se tromper, mais le peuple est légitime en se trompant et il a, bon. En revanche, ce qui est très, très, et puis la raison pour laquelle, alors on dit, il faut faire des élections générales. Mais les élections générales sont très embarrassantes, puisque elles ne pourraient se faire que sur le Brexit. Or, les deux partis sont divisés, avec le parti conservateur très sévèrement, et c'est lui qui a la dissolution en main, et le parti travailliste est également, comme l'a rappelé Cameron en termes virulents, est également très divisé. Donc, ils vont mettre Theresa May. C'est très logique. C'est très très logique de mettre Theresa May pour engager, car Theresa May, c'est celle qui va proposer l'accord qui sera le moins éloigné possible du Brimen. C'est un accord de Brexit qui est exactement le schéma que décrivait Thierry il y a un instant. Alors, si on prend les trois points, premièrement, sur la libre circulation, ils vont vouloir marchandises, services, capitaux, biens, services, capitaux, et pas la population. Bon, alors là, il y a plusieurs modèles. Il n'y a aucun modèle qui correspond à ça, ni le Norvégien, ni le Suisse, ni le Canadien, ni bon. Mais on pourrait leur bâtir un quelque chose, parce que la population, au bout du compte, on pourrait arriver à une certaine réciprocité. car ils ont beaucoup de gens dehors, ils ont intérêt à les ménager, on a beaucoup de gens chez eux, on a intérêt à les ménager, et d'autre part, la Cour de justice actuellement n'est pas du tout chienne sur le plan de la protection des intérêts nationaux. Il y a aujourd'hui, de Belgique, une quantité de décisions qui sont prises, qui visent à refouler des Français en France à partir du moment où ils n'ont pas d'emploi. Donc on imagine. Deuxièmement, c'est également ce qu'a dit Thierry, on fait un accord de libre-échange, mais on se soustrait à la réglementation communautaire. C'est-à-dire exactement ce que ne font pas les Norvégiens. Les Norvégiens, eux, ils appliquent la réglementation communautaire. Alors là, c'est terrible, parce que pour les Britanniques, s'ils acceptent la réglementation communautaire, c'est comme dirait Chaval, pour un jeu de cons, c'est un jeu de cons. De sortir pour se voir appliquer la réglementation sans pouvoir y participer, c'est pas malin. Bon, mais en revanche, là, nous devons être très fermes et nous n'avons aucune raison d'être plus accommodants avec les Britanniques qu'avec les autres et de se faire refiler une concurrence déloyale de gens qui n'appliqueront pas les normes qui seront les nôtres. Donc là, on a intérêt à quelque chose. Et troisièmement, il y a le passeport européen qui est quand même le passeport pour l'euro, qui est quand même central pour l'avenir de la City. Pour l'instant, il y a un seul pays qui l'a à l'extérieur, c'est la Norvège, parce que la Norvège est dans un système de quasi participation. La Norvège avait d'ailleurs dit, le Premier ministre norvégien avait d'ailleurs dit aux Britanniques, si vous voulez le système norvégien, vous n'aimerez pas. Vous pourrez peut-être l'avoir, mais vous n'aimerez pas. Et là, il va y avoir... Là, c'est là que va se faire la tension la plus forte. Hollande, je finis juste... Hollande a dit quelque chose de... Alors, Hollande est toujours déconcertant. Il a dit, venez, on va faire une grande place financière. Il a ajouté, il a fait quelques brocards anti-libéraux, ce qui est vraiment pas l'exemple. Mais là, les Allemands et les gens, les craintifs, vont dire, non, on peut pas se permettre de déstabiliser les marchés, de déstabiliser la City, et c'est là, me semble-t-il, qu'il va y avoir la discussion la plus, peut-être pas la plus spectaculaire, mais la plus violente.
Nicole Nisotto.
Oui, il me semble qu'on est un peu tous d'accord pour dire que la perfide Albion a de beaux jours devant elle et qu'elle va passer les 2, 3, 4 années qui viennent à nous empoisonner l'Europe. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Thierry pour dire qu'il ne faut pas céder. Mais j'ai peur que la France soit très isolée dans le maintien de cette ligne, d'autant que l'élection, enfin la victoire de Monsieur Rajoy en Espagne dimanche dernier va quand même accroître la force des partis PPE, des partis de droite, et que Hollande et Renzi vont se trouver quand même un peu en minorité pour faire pression sur une fermeté à l'égard de la City et des compensations à Londres. L'autre raison pour laquelle on devrait ne pas céder, c'est que si on leur fait la vie trop belle, ça pourrait donner d'autres idées à d'autres pays candidats qui se disent, après tout, on peut sortir, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de pénalité, au contraire, on s'en sort. Bon. Donc, voilà, mais je crois que cette ligne de fermeté, elle doit être réaffirmée. En revanche, là, je voudrais, simplement ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait quand même réorienter le débat sur l'Europe. Moi, je suis navrée de voir que ce qui est sorti du Conseil européen, comme proposition très générale, bien sûr, c'est on va renforcer la zone euro, le marché intérieur, achever le marché intérieur, on va faire une Europe de la sécurité intérieure et extérieure, et on va faire un peu de justice et de choses pour les jeunes. C'est-à-dire la même chose en mieux, et là, je crois que les dirigeants européens ratent le message qu'ont donné, malgré tout, les gens qui ont voté le Brexit. Y a un message que donnent les populations, la montée de l'euroscepticisme, de l'europhobie n'est pas un phénomène isolé en Grande-Bretagne, c'est une lame de fond en Europe et aux États-Unis d'ailleurs. Et je crois qu'il faut essayer de réorienter sérieusement le débat sur la construction européenne. Et moi, je crois qu'il faut avoir trois débats. Le premier débat, c'est sur quel type d'Europe nous voulons. Est-ce que c'est une Europe grand marché, comme l'ont voulu les Britanniques jusqu'à maintenant et comme ils ont réussi à l'imposer, ou est-ce qu'il ne faut pas une Europe politique, comme les Français l'ont toujours voulu depuis le général de Gaulle et comme nous l'avons abandonné depuis 10 ans. Je crois que cette Europe, ce débat-là, il faut l'avoir. Et il faut avoir une Europe politique, c'est-à-dire l'insertion d'un minimum de contrôle politique sur les marchés d'une part et d'un minimum de contrôle politique sur les frontières et les crises extérieures. Je crois qu'il faut de nouveau avoir ce débat en valorisant l'Europe politique. On était maintenant honteux vis-à-vis de cette question. C'est une vraie ambition qu'il faut ressusciter. Deuxième point très rapidement, quel type de croissance nous voulons ? Est-ce que c'est une croissance qui de facto augmente la richesse des nations, mais augmente les inégalités de richesse au sein des nations. Si c'est ça, on perd de plus en plus l'électorat des classes moyennes. Donc il faut revoir le type de croissance, une croissance qui redistribue de la richesse, donc qui fait de, en particulier de l'Europe sociale. Et troisième débat, quelle est la part entre les nations et l'intégration européenne? À quoi servent les nations aujourd'hui? À quoi sert l'Union européenne? Et moi, je crois que les nations sont indispensables en termes de légitimité politique. Les gens se sentent français, anglais, allemands, etc. Mais que l'Europe est indispensable en matière d'efficacité. Je crois que l'Europe, c'est la condition d'efficacité des nations. Et il faut avoir ces trois débats, sinon on ne s'en sortira pas.
Thierry Pêche.
Un point sur le Royaume-Uni, puis un point sur l'Allemagne pour poursuivre la discussion avec Nicole. Sur le Royaume-Uni, le Brexit en 2016 pourrait être, 60 ans après la crise de Suez, la deuxième grande marche descendante de l'influence du Royaume-Uni. Je crois qu'il faut qu'ils comprennent ça. Ils se sont pris... Le fantasme de la souveraineté retrouvée, de la grande nation qui a été agitée sans cesse dans cette campagne, aboutit à quoi? Il aboutit au constat, comme le disait Jean-Louis, qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Il n'y a aucun projet. Il n'y a aucune construction. Il y a juste une classe de politiciens cyniques. Et il y a la désagrégation du royaume. C'est pour ça que je dis que c'est la deuxième marche descendante. Et il y a eu Suez. Le Royaume-Uni a compris qu'il n'était plus une grande puissance mondiale. Et puis maintenant, il y a Brexit 2016. Le Royaume-Uni a compris qu'il était une fédération fragile. Donc c'est une date historique. Et c'est pour ça qu'il faut que ça se passe mal, si vous voulez mon avis, pour dire les choses clairement. Il faut que ça se passe mal dans l'intérêt du Royaume-Uni et dans l'intérêt de l'Europe. Il faut que la politique ait des conséquences. Et donc il faut que ça soit difficile demain pour le Royaume-Uni et qu'il y ait une crise politique qui accouche d'une solution un peu plus claire.
Je sais bien,
c'est un chemin compliqué, mais tout autre chemin est encore plus compliqué. Il n'y a pas de chemin simple.
En termes de prévision, ça ne se passera pas. Je ne dis pas que vous ayez tort.
Alors, sur le point que vous évoquiez, Jean-Louis, dans la foulée de ce que je disais sur libre-échange, régulation, immigration, etc. Le point sur lequel il faut être particulièrement inflexible, c'est ne pas lâcher l'accès au marché unique sans la régulation. Parce qu'ils nous diront, c'est très simple, le marché unique, nous on adore ça, on trouve ça très bien, on a toujours dit ça d'ailleurs, mais on veut la reconnaissance réciproque des réglementations. On veut que nos hedge funds pourris à Londres puissent faire à peu près n'importe quoi dans votre marché librement sans que vous nous ennuyiez avec vos réglementations. Et nous devons répondre clairement que l'Union européenne est par définition un ensemble réglementé et si possible un ensemble relativement homogène. Il ne faut pas lâcher là-dessus. Si on lâche là-dessus, il n'y a plus d'Europe. Ce n'est pas la peine de... Non. Maintenant sur l'Allemagne. Alors, je suis très heureux de voir Nicole rejoindre des mots et des propos que j'ai pu tenir de longue date à ce micro et sur lesquels je pense n'avoir pas varié. Mais il faut reconnaître que les Allemands ont beaucoup bougé. Ils ne l'ont jamais dit, mais ils ont beaucoup bougé. Ils ont bougé lentement, mais ils ont beaucoup bougé. Et ils vont continuer à bouger,
grâce à Sarkozy,
je pense.
En particulier.
Non, mais pas seulement grâce à Sarkozy. Grâce à la réalité du contexte européen qui a rendu intenable la position, l'orthodoxie ordolibérale. Elle était intenable. Par ailleurs, Nicole, un point qu'il faut faire connaître, c'est que l'action de Mario Draghi fait le job que les Allemands ne voulaient pas faire. Fait le travail de facilitation, de relance, etc. Il a parlé, reprenant la vieille idée de Milton Friedman, Jean-Louis, Milton Friedman, c'est pas un homme de gauche, d'hélicoptère money.
C'est la différence avec moi.
La monnaie par hélicoptère. C'est-à-dire qu'il irait désormais très loin. Bon, je m'arrête là parce que je sens que je vais être trop long.
François Bujon de l'Étang.
Quelques remarques sur trois points. Le premier point, c'est la ligne de fermeté. Donc, il ne doit pas être si difficile que cela de tenir une ligne de fermeté vis-à-vis des Britanniques. Je trouve que les premières manœuvres auxquelles on a assisté au Conseil européen des 27 et 28 sont plutôt rassurantes. Bien sûr, on a eu la cacophonie habituelle des déclarations des uns et des autres, mais il y a une espèce de consensus quand même qui se dessine sur le fait qu'on ne peut pas bénéficier des avantages du grand marché intégré si on n'accepte pas les quatre libertés. Et les quatre libertés, elles incluent la liberté de circulation quand même des citoyens de l'Union européenne. Bon, Madame Merkel a réaffirmé ça avec force devant le Bundestag. C'est quand même très très important. Ça a été redit au Conseil européen de Bruxelles et je pense qu'il n'est pas trop difficile de dégager un consensus là-dessus. C'est pas la peine d'entrer dans des complications immenses. Cette ligne de fermeté, elle est très très grande et elle pousse les Britanniques à accepter quand même les contreparties nécessaires s'ils veulent bénéficier du marché. Alors à ceci s'ajoute l'affaire du passeport européen et moi je rejoins assez ce que dit Thierry sur ce point. Il n'est pas admissible que les Britanniques qui ont décidé de sortir continuent de dire que Londres reste la capitale financière d'une zone euro à laquelle ils appartiennent encore moins qu'avant, si j'ose dire. Donc c'est pas possible. Donc il faut tenir très très bon là-dessus. Et je pense qu'on doit pouvoir maintenir un consensus minimum. Le second point, c'est sur le débat européen. Car effectivement, tout le monde dit maintenant, c'est la nouvelle, le tarte à la crème, il faut une refondation de l'Europe. Mais refondation à la fois en italique et entre guillemets. On ne cesse d'entendre ce mot, c'est la nouvelle scie, si j'ose dire. Ce qui est vrai, c'est que il faut abandonner les vieilles lunes, effectivement. Il faut notamment renoncer à l'idée qu'il faut faire plus d'Europe, plus d'intégration, plus de zone euro, parce que c'est la sortie de la crise. Non, les peuples ne disent pas cela du tout, si on les écoute, et ils ne le disent pas dans les urnes qui parlent pour eux. Je pense que, en effet, je vous rejoins, Nicole, là-dessus, mais c'était la vieille idée du général de Gaulle. Il faut, bien entendu, une Europe des nations. Et les Européens ont envie que, au sein d'une Europe qu'ils ne désavouent pas, les nations s'affirment davantage au détriment des institutions dites bureaucratiques de Bruxelles. Je crois que c'est très très important et ils veulent une Europe qui les protège. Et puis le troisième point, si vous permettez très rapidement, c'est l'aspect sécurité-défense. Les Britanniques sont notre seul partenaire sérieux dans le domaine de la sécurité et de la défense. Il n'y en a pas dans l'Union européenne, il n'y a pas d'Allemagne, il n'y a personne au numéro que vous demandez. Il n'y a que les Britanniques. Et ça, c'est un sujet de réflexion très important pour la diplomatie française. Comment faire en sorte, malgré le Brexit, que l'on puisse maintenir et développer tout ce qui a suivi les accords de Lancaster House et tous les partenariats établis avec la Grande-Bretagne dans le domaine de la sécurité et de la défense, alors même que la crise économique qui menace le Royaume-Uni va affecter le budget de défense.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je suis pour une fois assez en net désaccord avec ce que vient de dire François.
Comment est-ce possible?
Temps, si c'est possible, à mon avis, c'est réparable.
Comment est-ce possible? Comment est-ce admissible?
Et je suis en désaccord précisément sur le... vous dites, en fait, vous cautionnez l'idée que c'est parce qu'on a fait trop d'Europe qu'on en est là et que les peuples, effectivement, ne supportent pas cette overdose. Je crois que vous avez raison quand vous dites que les peuples s'expriment sur cette base, dans ces termes-là. Mais quand il y a aussi la overdose, il faudrait voir les doses. Moi, je ne vois pas quelles sont les doses. Ce qui me paraît caractériser la situation depuis 20 ans, ça n'est ni l'overdose européenne, ni le rôle des institutions communautaires. Les institutions communautaires ont été complètement marginalisées, délégitimées, à partir notamment du traité de Nice, où maintenant l'instance dirigeante de l'Europe, ça n'est pas la Commission. Ce pauvre Juncker est une marionnette de ventriloque. On lui fait parler. Les États parlent à travers lui, mais ce sont les États qui parlent. Ce sont des réunions quasi maintenant mensuelles du Conseil européen qui, sans aucune règle de procédure bien établie, se réunissent, ont des espèces de textes préparés par les diplomates et dans lesquels ils enlèvent quelques... Je n'ai rien contre les diplomates, qui font ce qu'ils peuvent, mais quand on est 27 ou 28, c'est pas très commode, qui mettent quelques crochets, on enlève des crochets, et il n'y a absolument rien qui sort de cela. Ce qui est frappant, c'est l'effondrement du système né à Maastricht, qui a été remis en cause progressivement à partir de 95, et notamment à partir du traité de Nice, et son remplacement par une Europe de type intergouvernemental, que j'aurais qualifié de gaulliste si je devais être insultant pour le gaulliste, ce qui n'est pas mon cas. Mais on est là dans un système qui ne fonctionne pas. Et les Européens, ceux qui dirigent l'Europe, il faut quand même y revenir inlassablement, depuis maintenant plus de 20 ans, sont des eurosceptiques. Quand vous n'allez pas me dire que quand vous remplacez Felipe González par José María Aznar, Andreotti et Craxi, si crapuleux soit-il, par Berlusconi, que vous remplacez des démocrates chrétiens comme Ruud Lubbers ou les démocrates chrétiens flamands comme De Haan, Tindemans ou Martens par des flamingants aux Pays-Bas par des gens qui sont alliés à des partis populistes, quand vous mettez Schröder qui, quand il est venu à Paris, a dit publiquement très très drôlement, parce qu'il y a beaucoup de talent. Quand je suis arrivé au pouvoir, je n'avais pas détruit en moi toute trace de populisme. Quand vous mettez Chirac à la place de Mitterrand, Delors, Balladur, Barge, Giscard, etc., vous n'allez pas me dire que vous ne mettez pas au pouvoir des eurosceptiques. Et le problème dans lequel nous sommes depuis 20 ans, c'est que le problème européen est un problème de schizophrénie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent que tous les enjeux ne peuvent être relevés qu'au niveau européen et qui en même temps ne sont pas prêts à payer le prix en termes de transfert de compétences et qui donc mettent en cause l'Europe comme on l'a fait. On veut une autre Europe, on ne sait jamais laquelle, et propose des solutions intermédiaires. Et c'est cette schizophrénie-là qui rend le débat européen complètement plombé. Et c'est ça dont il faut sortir.
Thierry Pêche. Non, je voulais juste rappeler une statistique amusante qui montre combien la situation est absurde. C'est que les régions britanniques qui ont le plus voté Brexit sont celles qui reçoivent le plus de subsides de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les raisons de fragilité. Elles reçoivent cet argent que les démagogues Boris Johnson, Nigel Farage, ça, ont oublié dans leur compte quand ils disaient 450 millions de livres sont donnés par semaine à l'Union européenne. Ils oubliaient d'enlever tout ce que l'Union apporte. Eh bien, c'est là où on a le plus voté pour la sortie qu'on reçoit le plus de l'Union. Et donc, voilà, vraiment, la Grande-Bretagne a tiré contre elle-même.
Nicole Nézetto.
Juste un point pour renchérir sur ce qu'a dit Jean-Louis et peut-être le réconcilier avec François Bujon de l'Étang. Je crois que tous nos gouvernements, y compris le gouvernement français, sont hautement responsables de cette communication négative qui est faite sur l'Europe depuis 20 ans, qui est une communication sur l'Europe repoussoir, l'Europe bouc émissaire, c'est-à-dire tout ce qui va bien dans le monde et dans France, c'est grâce au gouvernement français. Tout ce qui va mal en France, c'est à cause des législations et des réglementations européennes. Et là c'est vraiment l'arroseur arrosé. Je crois que les gouvernements payent le prix d'un discours, d'une communication politique parfaitement nulle sur l'Europe. Et donc les électeurs, je crois, refusent l'Europe comme solution parce qu'ils la voient comme le problème, comme un mélange d'arrogance extrême et d'impuissance totale.
Je vous remercie. Nous entrons dans notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je la consacrerai à l'annonce des thématiques qui, chaque été, remplacent les émissions au cours desquelles nous nous efforçons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Et ces thématiques seront d'abord consacrées à un certain nombre de pays ou de régions. Nous commencerons la semaine prochaine avec Jean-Pierre Filiu autour des enjeux du monde arabe. Puis le 17 juillet, avec Nicole Bacharan, nous nous intéresserons sur le bilan, surtout en matière de politique étrangère, de Barack Obama à la Maison-Blanche. Le 24 juillet, nous recevrons Lionel Zinsou, dont vous vous souvenez qu'il a été un partenaire de nos conversations, jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre du Bénin, puis candidat à la présidence de la République. Il nous racontera ce qu'a été cette campagne, mais il nous parlera aussi, puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur et avec lequel et pour lequel nous l'avions invité à l'été 2014, du développement économique de l'Afrique. Nous recevrons ensuite Bernard Ourcade à propos de l'Iran et des défis de l'Iran, puis nous terminerons ce voyage avec l'Allemagne et avec Hélène Miard de la Croix, avec qui nous parlerons de la place de l'Allemagne en Europe. Les trois dernières thématiques seront consacrées à des sujets séparés, encore que le premier de ces trois sujets ne sera pas sans rapport avec le coup d'œil international que nous aurons essayé d'avoir, puisque nous recevrons le général Vincent Desportes à propos de la défense, et à propos de la défense française. Le général Desportes est l'ancien directeur de l'école de guerre et il enseigne la stratégie à Sciences Po et à HEC. Et puis nous nous intéresserons à un autre sujet également important internationalement, celui des pandémies et de la précaution, avec Arnaud Fontanet, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers et responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Enfin, nous nous intéresserons à la situation économique, plus précisément à la situation monétaire et plus précisément encore à la gouvernance monétaire mondiale. Et c'est avec Jacques Mistral que nous essaierons d'éclairer ce sujet. Voilà quelles sont les thématiques de cet été. Nicole Nézetto.
Alors, moi je voudrais recommander le livre de Justin Weiss, qui est une biographie, la biographie de Zbigniew Brzezinski, stratège de l'Empire, paru chez Odile Jacob. C'est une biographie formidable, parce que comme toutes les bonnes biographies, c'est à la fois une histoire personnelle extraordinaire, d'un petit immigré arrivé à 10 ans aux États-Unis, devenu le penseur, le conseiller politique du président des États-Unis, Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle rejoint bien sûr l'histoire de la diplomatie et de la politique étrangère américaine. Et elle montre surtout très bien cette période historique où la diplomatie faite par les grands avocats, les cabinets d'affaires, a cédé la place à une diplomatie faite par les intellectuels, les think tanks, les grandes universités américaines. Et peut-être que c'est aussi un temps qui s'achève avec la succession d'Obama. Donc je le recommande à la fois pour le côté vraiment anecdotique et biographique de cette destinée et pour la réflexion sur la diplomatie américaine.
François Bujon de l'Étang.
Mais moi, je reste en Europe, mais au moment où tout le monde se tourne vers des préoccupations estivales et vers des idées de vacances, je recommande vivement la lecture du livre que Jacques de Saint-Victor vient de publier aux éditions Équateur, qui s'intitule Via Appia, voyage sur la plus ancienne route d'Italie. C'est un livre sympathique, écrit par ce spécialiste de l'histoire des idées politiques, mais aussi grand spécialiste de l'Italie, bien entendu. C'est un livre bon enfant, mais en même temps extraordinairement érudit, qui nous emmène à travers les dédales de la Via Appia dans le sud de l'Italie, mais aussi dans un voyage historique et littéraire.
Je n'ai fait que le commencer, mais j'ai bien aimé ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est-à-dire il descend la Via Appia, donc il commence et va, traverse l'Italie, il commence à pied.
Il commence à pied.
Et marcher est une chose qui est extrêmement à la mode, et il y a un moment où il explique très bien que c'est insupportable. Et il arrête, et il y a une...
Ça m'a
beaucoup fait rire.
Et il va chercher sa vieille Cinquecento.
Voilà. Il va chercher sa Fiat, absolument. Thierry Pêche.
Je vais casser un peu l'ambiance, je m'en excuse, parce que moi, je ne vais pas vous parler d'une lecture, mais d'une émotion, d'une certaine façon. Dans la nuit de mercredi à jeudi de cette semaine, l'union départementale CFDT de la Gironde a été incendiée. C'est la 14e, c'est le 14e site de la CFDT à être attaqué. C'est le cas aussi pour des permanences du Parti Socialiste. C'est le cas aussi pour des permanences de la CGT, il faut le dire. Il y a dans l'ultra-gauche française aujourd'hui une violence montante qui pose la question éventuellement d'un passage à la lutte armée de certains groupuscules. Je crois qu'il faut vraiment prendre très au sérieux cette tendance qui n'est pas, contrairement à ce que disent certains sociologues du maintien de l'ordre, quelque chose qui a toujours déjà été là. On est là, cette fois-ci, dans un gradient relativement hors norme de cette violence. Je pense qu'il faut... J'attends des intellectuels et des médias qu'ils en parlent un peu plus.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, Nantes va être un révélateur assez impressionnant de ça. Oui, c'est moi.
Oui, c'est l'heure.
Moi je voulais simplement signaler un livre d'Edith Wharton qui n'est pas le meilleur roman d'Edith Wharton, loin de là. Les Amours d'Odon et Fuvia, c'est un roman historique qui a été traduit excellemment, comme toujours, par ce remarquable traducteur qui est Jean Pavant. Et c'est un roman. Alors on trouve c'est un roman historique qui se passe à la fin du XVIIIe siècle dans un duché italien, et on retrouve les deux la composante traditionnelle de la problématique d'Edith Wharton, c'est-à-dire la contradiction entre le désir, l'émotion, l'amour, la pulsion de intime et les exigences du contrôle social, de l'ordre social. Et là, c'est le thème du temps de l'innocence, par exemple. Mais là, c'est couplé avec quelque chose de différent, qui est l'exigence révolutionnaire qui met en cause un individu qui est responsable de l'ordre traditionnel, de l'ordre classique. Et donc c'est cette double contradiction que Edith Wharton met en scène. Et moi j'ai toujours une grande affection pour les œuvres d'Edith Wharton. Je ne crois pas que ce soit le meilleur de ses livres, mais je pense que l'été, ceux qui aiment Edith Wharton seront heureux de retrouver Les Amours d'Odon et Fulvia.
C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean-Reno, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Pascal Bénard. Vous avez rendez-vous avec Alain Kruger. Pour On ne parle pas la bouche pleine, il reçoit Bernard Pacot, le chef qui fonda l'Ambroisie et qui est l'un des trois étoiles les plus discrets que l'on connaisse, mais qui depuis plus de 30 ans prépare des mets d'exception dans la cuisine de l'Ambroisie, et l'émission d'Alain Kruger s'intitule « L'œil du maître dans la cuisine des dieux ». Vous avez également rendez-vous avec nous, du moins je l'espère, la semaine prochaine pour la première des 8 émissions thématiques de l'été. Émission, comme je le disais tout à l'heure, consacrée aux enjeux du monde arabe et au cours de laquelle nous recevrons Jean-Pierre Filu, professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris.